mon intervention se limitera à Vidal Naquet, historien de la guerre d'Algérie, et notamment à Caen, ici. Et effectivement, on est là avec Vidal Naquet au cœur, je pense, de la problématique de ces deux jours, c'est-à-dire cette problématique de la tension qu'il a vécue lui-même entre histoire et mémoire. Car je rappelle que dans ses mémoires, Vidal Naquet disait être un homme mémoire, mais par ailleurs il est, et personne n'en disconviendra, un grand historien. Et évidemment, on va voir avec la manière dont il déploie le discours sur la guerre d'Algérie, et notamment l'affaire Audin, à quel point cette tension va l'amener petit à petit à modifier les choses. Et puis, ce que tu as dit tout à l'heure, ton très bon exposé sur histoire-mémoire, me rappelle une phrase, tu as cité Pierre Laborie, je citerai Michel de Certeau, et cette phrase que je cite toujours, qui est « l'événement est ce qu'il devient ». Et effectivement, cela, pour nous historiens, change le paradigme, car pour nous, l'événement était surtout à la croisée d'un certain nombre de déterminations. Et aujourd'hui, il s'ouvre vers l'inachevé, comme dirait Paul Ricoeur, c'est le dernier mot, inachèvement de la mémoire, l'histoire, l'oubli, son grand œuvre. Alors, Pierre Vidal-Naquet. Pierre Vidal-Naquet, on ne peut évoquer son engagement dans la question algérienne sans rappeler, en deux mots, le fait qu'il est fondamentalement meurtri jusqu'à son dernier souffle, en 2006, par la disparition de ses parents, père et mère, déportés à Auschwitz et qui ont disparu dans les chambres à gaz, et qu'il a vécu donc très jeune. C'est quelque chose qui l'a fondamentalement marqué et qui explique son engagement dans la cité jusqu'au bout. Il a fait des propos de Chateaubriand, lus par son père en 1942, sa devise, je la cite, cette citation de Chateaubriand. Lorsque, dans le silence de l'abjection, l'on n'entend plus retentir que la chaîne de l'esclave et la voix du délateur, lorsque tout tremble devant le tyran et qu'il est aussi dangereux d'encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce, l'historien paraît chargé de la vengeance des peuples. Eh bien, c'est cette tâche de justicier, de vengeur par rapport à l'inqualifiable et l'insupportable que incarne l'historien Pierre Vidal-Naquet. Il a toute sa vie réagi contre toutes les formes d'abjection qui, chez lui, n'ont pas valu silence, mais clameur, combat, militance. Et il a embrassé, on peut dire, j'ai pas le temps là évidemment, mais on y reviendra ce soir, toutes les causes. La cause algérienne très tôt, mais ça a été ensuite le Vietnam. Ça a été ensuite l'engagement dans mai 68 et contre la répression policière et la violence policière. Ça a été ensuite contre le coup d'État des colonels grecs, contre le négationnisme, j'en passe. Il va mettre sa compétence d'historien au service de toutes ces causes, au profit de quoi ? De l'éclatement de la vérité. C'est un point majeur, la vérité, car cela nous renvoie à ce qu'est la matrice même, la fonction même de l'historien depuis Thucydide, donc depuis l'Antiquité. L'historien se présente comme un maître de vérité. Alors cela se fera pour lui au prix d'un certain nombre de déchirements intérieurs. De plus en plus, et notamment après 67, il deviendra de l'intellectuel engagé, qu'il a été dans la guerre d'Algérie, un intellectuel juif, affirmant sa judéité, mais ne se reconnaissant jamais dans la politique israélienne, qu'il pourfend d'enquête en article. ce qui l'a motivé au plus fond de lui, au fond de lui-même, c'est la question de la torture. Je le cite, « La lutte contre la torture a été la grande affaire de toute ma jeunesse. Ce qui m'a été, n'a été que peu traité et qui me paraît essentiel, c'est la dimension proprement politique de la torture quand elle est une institution d'État. » Donc, le côté politique de la torture et en même temps la dimension morale de réprobation de l'usage de la torture. Vidal-Naquet a même typologisé les modes d'engagement sur la guerre d'Algérie. Il a différencié le sien, l'engagement de Réfusard, et, je n'ai pas le temps, mais qui s'ancre dans une longue histoire, y compris de sa famille, de ses proches. L'engagement bolchevique, et troisième type, l'engagement tiers-mondiste, anticolonial, antisystème colonial. Et évidemment, cette typologie vaut ce qu'elle vaut, et comme toute typologie, elle n'est pas satisfaisante, elle permet de distinguer des dominantes, mais si on prend son ami Madeleine Ribeyrieu, à la fois Dreyfusarde, communiste et tiers-mondiste, et lui aussi un peu. Bon. Il a participé donc à ce soulèvement moral contre la guerre d'Algérie. Et sur la torture, il écrit dans ses mémoires « Mon père, Lucien, avait été torturé par la Gestapo à Marseille en mai 1944. L'idée que ces mêmes techniques étaient, après l'Indochine, Madagascar, la Tunisie, le Maroc, utilisées en Algérie par des Français, policiers ou militaires, me faisait proprement horreur. » Et c'est ça qu'il a fondamentalement soulevé. Dès les années 50, la torture, l'usage de la torture, qui sera ensuite, dont Raphaël Branche a montré qu'elle était totalement institutionnalisée, mais beaucoup plus tard, mais on la connaissait déjà, cet usage, depuis les années 50. Je rappelle que le journaliste écrivain Pierre-Henri Simon a publié « Contre la torture au seuil des 57 ». Je rappelle les articles d'un des maîtres, le premier grand maître de Vidal-Naquet, qui était Henri-Irénée Maroux, hein, qui, dès 56, écrit dans Le Monde « France, ma patrie », et qui s'élève contre les méfaits de l'armée française, les camps de concentration, la torture... Cela, écrit Maroux, dès 5 avril 56, est une honte pour le pays de la Révolution française et de l'affaire Dreyfus. Oui, la grandeur de la France est en péril au regard de ses valeurs. Eh bien, jeune agrégé d'histoire, Vidal-Naquet est alors, au moment en 56, professeur agrégé au lycée d'Orléans et, prenant connaissance de cette tribune dans Le Monde de son maître Maroux, il lui exprime son adhésion, je cite, et il décrit Maroux comme un patriote. Le patriotisme lui était aussi naturel que la respiration. Je dois dire que nous étions nombreux à ressentir l'insulte faite par les tortionnaires au pays des droits de l'homme. Alors, l'affaire Audin, c'est là que va être son premier engagement. Un homme a disparu. Voilà, Audin... jeune mathématicien, professeur à la faculté d'Alger. Et lorsque éclate cette affaire, la disparition de ce jeune français communiste Audin, Vidal-Naquet, il est ici, à Caen. Il est jeune agrégé, il a 26 ans. Et il est plongé déjà dans ses travaux, car c'est pas un contemporanéiste, même si on peut développer, mais c'est un grand initiateur de l'histoire du temps présent. Mais il est spécialiste dans ce qu'on appelle, nous, l'historien, nos quatre vieilles, antiquité médiévale, moderne, contemporaine. C'est un antiquisant. C'est un antiquisant et sa spécialité, vous le savez, c'est la Grèce antique. Il est ici l'assistant d'un grand maître de l'histoire de la Grèce qui est Henri von Effenter. Et Il y est depuis novembre 56. Alors, la situation, évidemment, 56, la France s'enlise dans la guerre. Hein, et je rappelle, vous le savez tous, qu'il y a eu des élections législatives en 56, gagnées par un certain front républicain, qui avait promis la paix. Bon. Or, la première chose que va faire Guy Mollet, dirigeant du parti de la SFIO, c'est poursuivre la guerre. Bon. Car il n'a pas apprécié les tomates qui lui sont tombées dessus. Elles étaient un peu pourries à Alger. Bon. Et donc, il va tourner sa veste très vite. Et Vidal-Naquet, à propos de ce 6 février 56, dira « C'est peut-être cette journée, cet anniversaire sinistre de l'émeute de 1934. » Vous voyez, les dates résonnent aussi dans la mémoire collective. 6 février 34, 6 février 56. Qui contribua plus qu'aucune autre à faire de moi, dit Vidal Naquet, un militant. Eh bien, l'épouse de Maurice Audin, qui est donc assistant à la fac d'Alger, alerte l'opinion publique. Son mari a disparu, hein, et elle l'écrit dans Le Monde, le 13 août 57. Depuis quelques jours, des bruits courent à Alger selon lesquels mon mari serait actuellement dans un camp secret, en très mauvaises conditions physiques. Et j'ai la preuve absolue que mon mari a été torturé après son arrestation. Et c'est alors que l'armée dit, bah oui, on a triste nouvelle de vous annoncer que Maurice Audin s'est évadé. Bon, il se serait évadé. Mais le problème, c'est que cette thèse est difficilement crédible. Comment Maurice Audin eût pu s'évader? D'abord, il était hors d'état physique après ce qu'il a subi comme torture, mais sans prévenir, sans donner un signe de vie à sa femme et ses enfants. Bon. Donc, il y a tout lieu de s'inquiéter. Et Vidal-Naquet va écrire au Monde, le 28 août, en disant qu'en tant qu'historien professionnel, et il se pose en historien, là, pas en militant, en historien, il se propose de faire la lumière sur cette affaire. Et il reçoit, quelques jours après, une lettre de Josette Audin, l'épouse de Maurice Audin, qui transite d'ailleurs par Caen, c'est Alger, Caen, Paris, bon, pour arriver au domicile de Vidal-Naquet, qui lui dit que ce qui arrive à son mari n'a rien d'exceptionnel, que tous les jours, il y a des disparitions d'Algériens, d'Arabes, de Berbères, etc. Donc, effectivement, on en parle moins, mais voilà, c'est quelque chose qui en renvoie à la quotidienneté de la guerre coloniale. Et, effectivement, elle sollicite son aide. Elle dit, je suis tout à fait partante pour qu'en tant qu'historien, vous m'aidiez et à faire éclater la vérité. Alors, ce qu'on sait, c'est que Maurice Audin a été arrêté dans la nuit du 11 au 12 juin 57 par les paras du 1er régiment de chasseurs parachutistes et qu'il a été conduit au sinistre lieu d'Elbiar, au lieu connu pour qu'on y torture savamment. À partir de là, effectivement, se constitue un comité Maurice Audin où on va retrouver un certain nombre d'ailleurs de personnalités, outre Vidal-Naquet en tant qu'historien, on trouvera entre autres Michel Crouzet, qui est un professeur de la Sorbonne, spécialiste littéraire de Stendhal. On y retrouvera Luc Montagnier, qui est très connu puisqu'il deviendra plus tard, enfin il est connu aujourd'hui, prix Nobel de médecine et le découvreur du fameux virus, non pas Covid-19 mais VIH. Jacques Panigel, qui est un biologiste, un romancier, et auquel va s'adjoindre, bien sûr, assez vite, Laurent Schwartz, mathématicien, universitaire, et qui d'ailleurs est en relation avec Maurice Audin, puisque Maurice Audin l'avait sollicité pour qu'il dirige sa thèse, hein, et qu'il préside un jury, laquelle thèse sera soutenue en décembre 57, in abstentia, et avec beaucoup d'écho, puisque dans l'assistance de cette thèse hors norme, en l'absence d'un disparu qui est Maurice Audin, vous avez dans la salle François Mauriac, et qui va consacrer son bloc-notes, bien connu dans l'Express, à cette thèse de Maurice Audin. Alors, ce comité Maurice Audin va prendre de l'ampleur, s'occuper du cas Audin, mais dépasser le cas Audin, se doter d'un président qui est, c'est assez peu connu, mais un ancien candidat de la gauche à l'élection présidentielle, évidemment extrêmement difficile, de 58, pour la gauche, 100 ans, qui s'appelle Albert Châtelet. Rien à voir avec le philosophe François Châtelet. Albert Châtelet qui préside donc ce comité Audin et qui est relayé en province par des comités Audin, et notamment ici, à Caen, où la présence, évidemment, de Vidal-Naquet donne toute son ampleur au comité Audin, qui est présidé par Roger Appéry, et qui va, c'est dans l'organe étudiant de cette université de Caen, que Vidal-Naquet va publier d'ailleurs son premier article, début 58, et cet organe étudiant s'appelait Cancan. C-A-N-C-A-E-N. Bon. Le doyen de cette faculté était une personnalité tout à fait singulière et intéressante, sur laquelle d'ailleurs, sous la direction, je crois, de Sylvie Thénault, Bertrand Hamelin a soutenu une thèse en 2011 sur Michel de Boire. Il se trouve que le hasard a fait que j'ai fait il y a longtemps, en 1994, un bouquin d'entretien avec un habitant d'ici, qui est Pierre Chaunu, qui m'avait dit aussi, qui donnait lieu au livre « L'instant éclaté », qui m'avait dit aussi, Chaunu, l'admiration qu'il avait pour Michel de Boire, qui était pourtant communiste, enfin communiste, catholique, etc. Bon, en même temps, comme dit l'autre. Et donc, voilà, il y a là une personnalité très, très forte et qui a fait que l'un et l'autre, la moitié des enseignants, hein, comme vous le rappeliez, de la fac de lettres, a adhéré à ce comité Audin. C'est un haut lieu, donc, de mobilisation. D'ailleurs, on retrouvera, je ne sais pas s'il y a une permanence, là, il faudrait étudier le truc, mais à Caen, là, entre la présence de Lefort, etc., on verra, en mai 68 aussi, Caen a été un haut lieu de mobilisation. Hein. Alors, pour la génération qui suit. Il y a eu dans le comité Audin des tensions, je n'ai pas le temps de développer, des tensions internes, parce que le comité tenait à son indépendance. Et il y avait une forte présence communiste. Donc il y avait la volonté, chez Vidal-Naquet, qui n'a jamais été au Parti communiste, de ne pas se laisser manipuler par les communistes, qui auraient bien voulu, par exemple, que l'avocat communiste Borker s'occupe de leurs affaires, mais ils ont réussi à préserver leur indépendance. Et Vidal-Naquet a surtout sollicité son ami éditeur, Jérôme Lindon, qui est, vous le savez, qui dirigeait, aujourd'hui c'est sa fille qui le dirige, je ne sais pas tout à fait la même direction, mais les éditions de Minuit. Voilà, Vidal-Naquet propose à Lindon la publication d'une brochure sur Audin. Et c'est Lindon, et lui revient aussi le mérite, de lui dire « Mais non, il ne faut pas faire une brochure, il faut faire un livre sur l'affaire Audin, et tu peux tout à fait, tu es en état de faire ce livre. » Alors là, Vidal-Naquet va s'y employer avec une enquête où il va reprendre finalement à son compte, je dirais, une école historique qui semblait dépassée, qui a été un peu diabolisée par les annales, dont la méthode semblait désuète, etc. C'est l'école méthodique, finalement. L'introduction aux études historiques de Langlois Seignobos, 1898, et voilà, les règles de la méthode, hein, de l'historien, critique interne, critique externe des sources et travail herméneutique, hein, d'interprétation. Voilà. Et ça va être la règle d'or, hein, sur cette affaire et ce premier livre d'histoire du temps présent, hein, de Vidal-Naquet. Le travail véritatif. Hein. Et la vérité, si je mens, la vérité, elle se découvre et elle se découvre pas d'elle-même. Contrairement à ce que croient certains, je pense à Bertoschek par exemple, il n'y a pas les preuves des archives. Les archives, il faut savoir les lire, il faut savoir les confronter. Hein. Il faut avoir ce regard d'historien analytique. Et c'est là où Vidal-Naquet fait son entrée en histoire, par l'histoire du temps présent, un peu à la manière du médiéviste Marc Bloch écrivant L'étrange défaite en 40. Bon, il paraîtra qu'en 46. Et alors, là, c'est très intéressant parce que il faut voir, et j'ai vu dans les archives, là j'avais des tombereaux d'archives, parce qu'il s'auto-archivait, Vidal, donc c'est très bien pour un biographe, à quel point va évoluer le rapport, et c'est le rapport histoire-mémoire, entre Josette Audin et Vidal-Naquet. Josette Audin, c'est une militante communiste. Elle veut affirmer là-dedans la lutte anticoloniale contre l'armée française, etc. Vidal, au contraire, adopte un style froid, neutre. Il n'est pas question de pathos. Il est question de découvrir minutieusement, de mener une enquête qui découvre la vérité. Point. Il écrit à Josette Audin le 19 avril 58, lettre envoyée par Vidal-Naquet. Ne vous étonnez pas de son caractère froid, glacé, même Maddy Borker, l'avocat communiste. C'est une condition nécessaire à un travail historique qui doit être d'une objectivité absolue. Bon. Vidal-Naquet va confronter les versions et il va être très élusif sur les violences subies par la torture. Aucune position anticolonialiste, aucune position même pour la paix en Algérie. Là, c'est particulièrement intéressant parce qu'il va y avoir un changement de paradigme dans la relation Josette Audin-Vidal-Naquet. Car au début, Vidal-Naquet insiste auprès de Josette Audin. Il lui dit dans ses courriers de rédiger son récit, de rédiger ce qu'elle sait, son témoignage, une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, de manière extrêmement minutieuse. Il s'agit, dit-il, d'énumérer jour par jour, et avec toutes les précisions imaginables, les faits dont vous avez été le seul témoin. Et il lui fait réécrire son témoignage. Et en une nouvelle fois. Et il la réinterroge. Et il lui réécrit. Bon. Or, alors on pourrait dire, ce qui se passe, c'est que, en fait, qu'est-ce qui reste dans le bouquin? Pas du tout, rien du témoignage de Josette Audin. Alors on pourrait dire, comme dirait, je ne sais pas quoi, Jacques Rancière, voilà, l'historien parle à la place de l'autre, il pique sa place, etc. Pas du tout, pas du tout. C'est pour gagner en efficacité. Et effectivement, c'est la substitution du témoin par l'historien, de la mémoire par l'histoire. Car ce sont deux choses différentes et forcément connexes. Hein. Bon, tout le travail de Ricoeur. Mémoire, histoire, oubli. Il y a la distinguer. La fidélité et la vérité. Sauf qu'on ne peut pas parler de fidélité sans vérité, de vérité sans fidélité. Bon. Alors là, il fait un travail qui est un travail qui rejoint Carlo Ginzburg, le juge et historien, le travail du juge d'instruction, enfin pas le juge qui doit prononcer un jugement, mais le juge qui mène l'enquête. Bon, et procès de Rennes, etc., je passe et vous connaissez de toute façon. C'est autre point qui touche là, ici, quand... c'est que cette guerre va se tourner, comme disait Michel Crouzet, en guerre de l'écrit, guerre de manifeste, guerre de livre, guerre, hein, on vous l'a montré, par témoignages chrétiens interposés, France Observateur, L'Express, Les Temps Modernes, Esprit, je passe. Et là, il va y avoir effectivement, et on peut peut-être terminer par là, en 1960, une guerre de manifestes, trois grands manifestes, dont le plus connu qui est le manifeste des 121, qui va être signé par Pierre Vidal-Naquet. Alors, ce manifeste des 121, c'est d'ailleurs pas celui qui recueille le plus de monde. C'est même le plus réduit, mais à 121, ils se sont dit on arrête. De toute façon, ils avaient beaucoup de personnalités importantes, lancées par Nadeau, Mascolo, Sartre, etc. Bon. Et dans ce manifeste des 121, pas de confusion, il ne s'agit pas d'un appel à l'insoumission, mais il s'agit de faire reconnaître le droit à l'insoumission. Le droit à l'insoumission dans une guerre d'Algérie non légitime et dans un moment où le réseau Janson, hein, ceux qu'on a appelés les porteurs de valises, passe devant les tribunaux. Hein, donc poursuite, démantèlement du réseau Janson et des jeunes qui refusent de faire ce que de jeter des Algériens par l'hélicoptère. Donc il y a une déclaration collective qui reconnaît le droit à l'insoumission de la guerre d'Algérie et qui est diffusée immédiatement interdite, y compris dans les temps modernes, ce sera deux pages blanches. Hein, donc il y a la censure, il y a les interdictions, il y a le silence imposé à l'époque, hein, à propos de silence. Et vous avez ce silence qui est contourné par ces publications, hein, témoignages et documents, qui sera suivi, témoignages et documents, par une autre publication, Vérité et Liberté. Voilà, ces publications qui publient les choses interdites, hein, qui passent par-dessus la censure. Eh bien, pour avoir signé ce manifeste, Vidal-Naquet est suspendu de son enseignement à l'université de Caen. Ouais. Décision donc de condamnation, hein, le 28 septembre 60. Cela va provoquer immédiatement une vive réaction du doyen, hein, Michel Deboire, qui refuse même, hein, et avec le soutien du recteur d'Or, hein, dont le nom de la salle, on a vu le film hier soir, bon, de transmettre l'arrêté de suspension à Vidal-Naquet. Vous comprendrez, lui écrit Deboire à Vidal-Naquet, que je refuse de me faire le coadjudicateur, fût-ce muet et réprobateur, de pareille opération. Si l'on me met en demeure d'obtempérer, je refuserai formellement. Bon. Eh bien, non seulement soutien de Deboire, soutien du recteur, soutien de la section SNESUP de la fac de lettres de Caen, qui déclare ne pas accepter la décision visant Vidal-Naquet. Et à l'heure où Vidal-Naquet aurait dû faire son premier cours de la rentrée sans masque, le 26 octobre 1960, vous avez une grande manifestation sur le campus de l'université, hein, de protestation. Et le lendemain, le 27 octobre, c'est une grande manifestation dans la ville de Caen qui regroupe 5000 personnes, dont 1500 étudiants. Vous imaginez, c'est absolument énorme. Et Deboire lui-même écrit à Vidal-Naquet le 28 d'avoir jamais vu ça. Bon, à Caen. Bon. Alors, concluons en disant que, comme l'a fait justement remarquer Jean-Pierre Vernon, son grand ami de Vidal-Naquet, la démarche de Vidal-Naquet ne peut se comprendre que dans le « et ». Et la conjonction, en effet, Vidal-Naquet est toujours dans le « et » non pas dans le « ou », dans l'alternative appauvrissante. C'est un historien de l'Antiquité grecque et du temps présent. C'est un intellectuel juif et qui soutient la cause palestinienne. C'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit ici, est dans l'approche documentaire archivistique qui définit l'historien et qui s'interroge aussi sur les mythes, les représentations, les fabulations, les légendes, exemple Atlantide. C'est quelqu'un qui est du côté de la mémoire et de l'histoire. C'est quelqu'un qui est du côté de l'action militante et de la réflexion. Cette dualité est au cœur de Vidal-Naquet. Elle corrige sa passion de l'engagement par la raison historienne qui l'invite à un souci de distanciation, d'objectivation. Et Il se reconnaît dans cette, qu'il cite dans ses mémoires, dans cette phrase, et je termine là-dessus, de Gide. Gide disait, dit-il, de lui-même, qu'il n'était qu'un enfant qui s'amuse, doublé d'un pasteur protestant qui l'ennuie. Je dirais de même de moi, que je suis un homme passionné, qui s'engage, doublé d'un historien qui le surveille de près, enfin, qui devrait le surveiller de près. Alors, il y a parfois des dérapages où il s'engage dans des causes qui ne sont pas aussi belles que la guerre d'Algérie. C'est l'affaire Tangor, et là, il s'est trompé. Mais l'erreur est humaine. Merci.